carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Christa Leuc.
Grand peintre de renommée internationale, Vladimir Velikovitch, récemment élu à l'Académie des Beaux-Arts dans la section de peinture, est à nouveau dans le studio de Canal Academy. Vladimir Velikovitch, bonjour.
Bonjour.
Nous venons de refaire avec vous votre parcours depuis votre jeunesse en Serbie, votre choix de vous établir à Paris et la consécration que vous y connaissez aujourd'hui. Nous allons maintenant aborder principalement votre œuvre, Vladimir Velikovitch. Tout d'abord, je propose une visite de votre atelier. C'est en banlieue sud de Paris, une ancienne manufacture nichée entre de coquets pavillons du 19e siècle où fleurissent le lilas et le jasmin et autres cerisiers par ce beau printemps. Un atelier comme au cinéma. Une vaste verrière couvre une immense surface. Tout aussi immense la surface des murs où s'entassent des toiles des plus grands formats, des panneaux de plusieurs mètres de longueur, au plus petit format qu'on appelle, je crois, vous m'avez confié ça, une figure. C'est une mesure française, n'est-ce pas ?
Mesure française qui signifie que ce format de une figure fait 22 par 16 cm.
Oui. Donc on trouve vraiment tous les formats, mais souvent avec les thèmes que nous allons aborder tout à l'heure. Alors nous sommes accueillis avec une extrême gentillesse, reçue comme à la maison, et j'ai l'impression que c'est votre refuge, Vladimir Velikovitch. Vous y travaillez tous les jours.
Je passe mes journées et dans mes pensées les nuits aussi. Mais le maximum
ça
de temps...
Ça occupe bien vos rêves.
Oui. L'important, c'est d'y être. Pas forcément de travailler, de mettre, comme on dit, la main dans la pâte, mais il faut être là. Il faut regarder ce qu'on a fait la veille, ce qu'on a fait avant-veille. Il faut voir ce qu'on fera dans les jours qui viennent. Il y a pas mal du travail autour de questions pratiques, techniques et malheureusement administratives. Mais je suis prisonnier, heureux et satisfait dans ce lieu-là.
Et parfois, j'imagine aussi que le regard ou la vision change selon tel et tel jour, tel et tel éclairage, telle et telle humeur.
Vous savez, moi, je suis assez stable dans mon fonctionnement.
Dans l'évolution d'un tableau ?
Dans le comportement. C'est-à-dire, je ne m'énerve pas, je n'explose pas de joie non plus. J'ai une sérénité tout à fait apte à exécuter un travail qui demande une certaine concentration. Je ne suis pas quelqu'un de très concentré. Quand je dis ça, je pense aussi de pouvoir passer quelques instants sur un dessin, par la suite reprendre les peintures et puis revenir au dessin. Et puis du dessin, je lis quelque chose ou je remplis les factures. C'est-à-dire, j'ai un rythme qui comporte beaucoup d'activités. Je ne suis pas bloqué du matin au soir ou du matin au midi sur un tableau, sur un problème. Je suis très dynamique dans mon fonctionnement, aussi mental que physique.
C'est votre home et en même temps votre Olympe.
Voilà.
En tout cas, pour parler maintenant plus précisément de la peinture, quand on découvre donc cet univers, toile après toile, quelque chose s'impose avec une telle force d'évocation qu'on croit parfois plongé en enfer. On découvre un monde féroce, sombre, de corps basculés, de potence, de chair morte, assombrie par l'ombre des rapaces, le tout baignant dans une gamme pratiquement monochrome, gris-noir avec des taches rouges. Alors on croit comprendre, Vladimir Velikovitch, que votre vision veut peut-être imposer la maîtrise de quelque chose que je pourrais nommer infernal. Et pour mieux évoquer cette atmosphère, permettez-moi de lire quelques lignes d'un ouvrage de Michel Onfray sur votre peinture, ouvrage paru chez Galilée en mars 2007, sous ce titre évocateur, « Splendeur de la catastrophe ». Je cite ici un passage qui renvoie à la série des tableaux « Les lieux », mais qui peut aussi bien s'appliquer finalement au plus large de votre œuvre. Il règne dans ces endroits un silence de mort, une impassibilité à l'odeur de sang, un calme de chambre mortuaire où le parfum du cadavre a laissé sa trace fade et pâle, écœurante et nauséeuse. inventaire des crocs, donc des murs sales, des instruments de traction, d'élongation, de tension, et toujours sur les murs, traces de sanies, de déjections humaines, et puis un trou, un cloaque, par lequel s'écoulent le sang, la bave, les matières fécales, l'urine, les larmes, la vie. Et Michel Onfray poursuit en expliquant qu'il y a là une métaphore de l'existence. Ces lieux racontent qu'il n'est de vie que placée sous le signe de la douleur, de la souffrance, de la déception et finalement de la mort. Cette topographie du mal ramasse la condition humaine. Elle en exprime la quintessence. Vladimir Velikovitch, quel commentaire vous inspire ce passage ? Peut-on vous demander dans quelle mesure vous éprouvez un tel ressenti de la condition humaine ?
Vous savez, je suis adepte de la lecture des images en fonction de la sensibilité des gens, de leur capacité du regard, de l'écoute, même de sentir. C'est-à-dire, je me reconnais dans ces mots-là, dans cette description, parce qu'effectivement, il ne les a pas écrites sans les voir et sans les sentir et sans les comprendre. C'est-à-dire, cette série des lieux est quelque chose qui m'est particulièrement cher, cette série des peintures, et effectivement, c'est une explication, on ne peut pas faire mieux.
Voilà le commentaire, c'est-à-dire c'est l'imaginaire de Michel Onfray.
Non,
mais il décrit quand même ce qu'on voit sur les tableaux.
Oui, c'est l'imaginaire. Bon, il faut être doté d'un certain imaginaire parce que il y a des gens qui n'ont aucune sensibilité et qui voient deux trois éléments, mais il en a vu, il en a commenté et puis il a conclu qu'avec tout ce qu'il a décrit, en utilisant ces mots graves et ces mots cruels et féroces, que c'est finalement la vie.
Et je rappelle ou répète la citation de tout à l'heure, qui vient de vous, bien sûr. « J'ai toujours peint ce que l'homme est capable de faire à l'homme », c'est-à-dire c'est quand même une extrême violence. Ça vous habite, vous y tenez, en quelque sorte, si je comprends bien, toutes ces images. C'est pas lourd à porter ?
C'est un bloc, c'est une accumulation des images, des documents, des expériences vécues, des expériences de créativité, des expériences qui sont quand même, qui ont contribué à faire quelque chose qui pour moi est un fondement, de quelque, une base. Sur cette base, je construis. Cette construction grandit, je ne sais pas si c'est en hauteur ou en largeur ou en profondeur, ce n'est pas important, mais il y avait depuis toujours quelque chose de voulu, de consolider cet ensemble d'éléments que je peux utiliser, dans lesquels je peux puiser quelque chose qui construit, qui fait la base de ce que je fais. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, il y a, je vous dis, le sujet, la thématique, dotée de cette violence, de cette agressivité, de cette cruauté, tout ça. Mais à partir de cette mise en place qui se remet en question chaque jour, ce n'est qu'une question de peinture.
L'ambition aide sûrement, l'ambition que vous avez...
Sans ambition, on ne peut rien faire.
Aide sûrement
pourvu qu'elle soit aussi portée, une ambition
même dans l'inconscient,
maladive. Hein.
À porter cette lourde... Ouais. Charge notre vie, peut-être de nos civilisations.
Je nommerais une responsabilité de l'artiste qui doit communiquer quelque chose à travers sa prisme, à travers sa pensée, à travers ses moyens de créativité. Je pense qu'aujourd'hui, les artistes sont plutôt tournés vers quelque chose d'autre. Je suis très, très étonné de voir cette quantité des choses superflues, enfantines. On n'a jamais eu autant dans la peinture, dans les arts, dans la sculpture aussi, des nounours, des chiens, des chats, des Mickey, des choses comme ça. Et pourtant, on est entouré par une dramaturgie qui est tellement, tellement grave.
Écoutez, sans doute sera-t-il bienvenu de nous accorder un peu de baume musical, le temps d'une ultime pause. Autre souhait de l'artiste Gustav Mahler. Nous sommes toujours en compagnie du peintre Vladimir Velikovitch, de renommée internationale et nouvellement élu à l'Académie des Beaux-Arts. Abordons maintenant, si vous voulez bien, des questions un peu plus générales. Par exemple, comment vous situez-vous par rapport aux multiples tentations et tentatives artistiques de ces dernières décennies, Vladimir Velikovitch?
Notre siècle, c'est-à-dire le siècle précédent, et celui-là, il ne va pas être très différent, a quand même apporté une énorme explosion dans tous les sens de la créativité. On peut discuter de ces créativités-là, mais elle est effectivement quelque chose qui a enrichi le panorama créatif dans le monde. Je pense que c'est une donnée tout à fait positive. Maintenant, il faut voir comment les choses vont se développer, comment certains vont disparaître. C'est cette fameuse phrase qui dit que l'histoire fera son tri. Mais je pense qu'il y avait un enrichissement considérable concernant la création.
C'est-à-dire, concrètement, vous voulez dire avec oui, les installations, non, les vidéo-art, oui, l'art, oui, etc.
Il y a des différentes disciplines qui n'ont pas été tout à fait absentes dans le passé, mais il y a une grande révolution dans la photo, dans la vidéo, dans le conceptuel, dans la sculpture, dans l'utilisation des nouveaux médias. Je pense que tout ça, c'est parfait. Plus il y en a, mieux l'histoire fera le tri.
Oui.
Je pense que c'est cette période-là qui est derrière nous et je pense que celle qui est devant nous fera encore l'épreuve de cette évolution. Et je regarde ça, bien sûr, pas avec le même intérêt tout, mais il me paraît qu'il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes. Mais quand on dit les nouvelles technologies, la photo, les vidéos et tout ça, ce n'est pas une menace, un danger pour les activités comme peinture, comme dessin, comme gravure, comme sculpture. Oui. Je pense que ce sont des choses complémentaires. Il faut seulement essayer de les faire cohabiter. Et je pense qu'en France, il y a cette cohabitation qui est un peu en question. Parce qu'il y a des événements, des mouvements qui sont plus favorisés au détriment des autres. Bon, moi je pense que la peinture dont je suis est toujours actuelle, elle est toujours vivante. Et il y a des merveilleux peintres qui sont sur la place de Paris, en France. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui permet pas de laisser fonctionner cette cohabitation normalement. Et par rapport à d'autres pays qui sont Allemagne, Angleterre, aux États-Unis, il y a quelque chose qui est ici qui mis en question, qui cohabite beaucoup
entre
plus
efficacement la classique, peinture, même si elle
parce
est
que la peinture a été carrément mise un peu sur la voie de garage, considérant par des institutions que c'est du passé, que c'est du ringardisme, que c'est du je ne sais pas quoi. C'est-à-dire la peinture a survécu aujourd'hui grâce à des ambitions personnelles et elle a été relativement peu aidée par l'État, par les officiels, par ceux qui décident de ce qui est l'art et de ce qui n'est pas l'art.
Et les grands collectionneurs s'intéressent quand même encore à la peinture.
Ils s'intéressent à la peinture, heureusement. Mais les collectionneurs, c'est des individus qui sont, avec leur argent, libres de faire des choix qu'ils considèrent bien. Mais je parle un peu des institutions qui sont des institutions nombreuses en France. Vous avez des musées, vous avez la délégation aux arts plastiques, vous avez l'AFA, maintenant ça s'appelle Culture France, qui est censée être un relais de l'art en France par rapport à l'étranger. Vous avez les FRAC, les DRAC. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut être dans le bon sens en essayant de changer un peu le regard de ces officiels qui sont quand même en position d'arbitre et qu'il faut leur un peu élargir le champ de regard.
Et ouvrir les yeux, par exemple, à nos politiciens. Revenir à des notions réellement artistiques.
Vous savez, une peinture, une œuvre picturale ou un artiste ou des expositions et tout ça, il y a relativement peu de gens qui sont concernés par ça. Il y a relativement peu. Personne n'a besoin de ma peinture, sauf moi-même. Et éventuellement, quelques personnes. Moi, je vous ai dit, je n'ai jamais manqué de public.
Ah là, vous ouvrez une grande question métaphysique.
Non, mais je suis tout à fait
aussi,
conscient.
Est-ce qu'on en a besoin et est-ce qu'on peut se permettre le privilège d'en avoir besoin éventuellement chez soi?
Oui, mais bon, on peut être en présence d'un art sans qu'on est propriétaire d'eux, c'est-à-dire il suffit d'aller dans les musées, il suffit de regarder les livres et tout ça. Mais la question que je me pose, est-ce qu'on a une utilité quelconque vue, et ça c'est pas uniquement ici, vu le budget qui est octroyé pour la culture.
D'après vous, donc, de plus en plus consacré à ce qu'on appelle l'art contemporain, c'est-à-dire...
En général, c'est bien qu'il y a ce qu'on appelle l'art contemporain, on est tous dans la contemporanéité, je ne sais pas, mais on tous vit ici, on fait un travail, on produit des œuvres, ça fait partie d'abord de notre vie, et après ça fait quand même une dynamique culturelle, mais quand je dis certaines choses, ce n'est pas une critique, mais je pense qu'il y a un manque de flexibilité de la part de ceux qui gouvernent l'art. Je le mets entre guillemets, ce gouverne, parce qu'ils sont très très puissants. Ils manient les budgets, qui sont des budgets d'organisation des expositions, qui sont des budgets d'achat, des acquisitions. Et là, il y a peut-être quelque chose à un peu élargir, un peu à prolonger cette route qui pourrait mener vers des choses qui largement méritent qu'ils soient vus, montrés, à la rigueur achetés.
Oui, mais Vladimir Velikovitch continue à être exposé et à être, j'espère, vendu dans les galeries.
Oui, mais ça, c'est un travail. Quand je parle de
oui, bien sûr,
ce
vous ne parlez
que
pas
dit,
que pour vous, bien entendu.
Je parle de quelque chose en général et je m'adresse plutôt à des pouvoirs.
Il serait soumis à quelle influence alors?
Écoutez, je pense qu'il y a une pensée tout à fait globalisée qui envahit la planète avec les mêmes idées. Avec
mais vous dites qu'en France, ce phénomène est plus sensible qu'en Angleterre
plus sensible,
ou en Allemagne.
Oui, parce qu'en Allemagne, vous avez quelque chose qui est un bon exemple de cette cohabitation entre ce qui est, disons ça,
l'art moderne,
avec guillemets ou pas guillemets, qui est l'art contemporain et l'avant-garde. J'ai l'impression que l'Allemagne, finalement, elle nous a encore servi des peintres extraordinaires qui ont une moyenne d'âge de 40 ans.
Ah oui.
Après cette vague précédente qui était les Neuwild, comment ils s'appelaient, qui étaient les Baselitz, Immendorf, Penck, Lupertz, Kiefer et tout ça. C'est-à-dire, il y avait cette peinture qui a quand même été mise en valeur dans le pays.
Oui.
Je pense que la peinture en France n'est pas mise en valeur dans le pays. Et c'est le pays dans lequel cet art se crée qu'il faut faire la valeur. Quand on dit valeur, valeur esthétique, mais valeur marchande aussi.
Bien sûr.
Parce que les artistes français ne sont pas intéressants pour le marché international. D'où l'absence totale. Ou presque total, sauf quelques initiatives individuelles des gens qui passent les frontières. Mais il y avait un travail qui doit être fait ici.
Et même François Pinault s'est expatrié.
Ah oui, mais François Pinault, dans son accrochage, bon, il est libre de faire ce qu'il veut, mais dans son accrochage qui est assez abondant, il n'y a que 3 Français.
Oui. Ce mouvement regrettable, il s'est arrêté à quel moment, à votre avis?
Par exemple, les nouveaux réalistes. Parlons-en. J'appelle ça un peu de sabotage. Parce que ces nouveaux réalistes, qui étaient un mouvement plus ou moins particulier à la France, animé par un critique énergique et efficace qui était Pierre Istany.
Oui.
Ce mouvement a réuni certain nombre d'individualités qui étaient vraiment des très, très bons artistes. Les nouveaux réalistes ont actuellement une exposition au Grand Palais. C'est-à-dire, quand je dis sabotage, c'est-à-dire cette exposition-là devrait se faire dans le musée d'art moderne, dans le Centre Pompidou. Parce que ce mouvement-là, mis comme exposition au Grand Palais, ne peut pas drainer un public qui est le même qui passe par la porte du musée d'art moderne, de national d'art moderne, qui va d'abord voir les collections et au passage, il voit les nouveaux réalistes. Mmh. C'est là l'efficacité de la promotion de quelque chose qu'on peut rattraper maintenant, parce que cette exposition des nouveaux réalistes devait se faire il y a 10 ans déjà. Mmh. Il y a la moitié qui sont morts maintenant.
Ça a commencé dans les années 60,
oui,
rappelons-le.
Et c'était quelque chose qui était propre à la France, avec l'esprit, avec l'invention, avec l'imagination et tout ça. Et je pense que c'est dommage que cette exposition-là, il n'y aura pas d'autre probablement, n'est pas quand même offerte à un
dans
public
du musée
international et français aussi, qui chaque jour ont je ne sais pas quel nombre des milliers de gens qui rentrent par la porte de Beaubourg voient cette exposition. Là, je pense que le public est 10 fois,
c'est,
sinon 100 fois,
raison.
moins
c'est
présent.
C'est pas du tout le lieu prédestiné.
C'est dommage, c'est dommage parce que c'était une occasion de faire valoir quelque chose qui est quand même une particularité en partie française. Et là, il va se produire encore une chose l'année prochaine. C'est l'exposition de se consacrer à ce mouvement de la figuration narrative.
Dont vous faites partie, quand même.
Périphériquement. Je ne pense pas que j'y serai dans cette exposition, ce n'est pas grave. Mais encore une fois, c'est une exposition qui est quand même assez particulière comme mouvement, comme présence. Et puis, ces gens-là sont toujours en activité. Ils vont la organiser aussi au Grand Palais. Et ça va être aussi dommage. Il y avait 2 mouvements qui ont été intéressants dans le siècle dernier déjà. Et je pense qu'ils n'ont pas mérité cette mise au garage.
Oui, c'est tout à fait dommage et regrettable. Concernant la Biennale de Venise que vous avez évoquée tout à l'heure dans votre parcours, dans les années 70, en 72, je crois, 1972.
Non, je ne l'ai pas évoqué encore, mais bon. Non, mais j'ai exposé à la Biennale de Venise
vous
en 72.
Ça, vous avez représenté donc la Yougoslavie en tant qu'artiste. Et là maintenant, en 2007, à la même Biennale, vous êtes nommé commissaire principal en charge du pavillon de la Serbie.
Voilà.
Donc ce sont 2 rôles différents. Percevez-vous cette distinction entre les 2 rôles?
Ces 2 rôles qui sont à l'opposé, c'est-à-dire j'avais une grande responsabilité de représenter le pays en 72, et là j'ai une autre responsabilité de choisir l'artiste qui représentera le pays. Bon, ce pays-là, maintenant, il est dans le même espace, mais c'est la Serbie uniquement, amputée du reste. Parce qu'il faut dire qu'à la Biennale en 72, il y avait cette fameuse clé, parce qu'on appelait ça comme ça. Il y avait une sorte de consensus. Il fallait qu'il y ait un Serbe, un Croate, un Macédonien. Il y avait toujours une combine entre les républiques.
Pour ne pas défavoriser les uns et les autres.
Voilà, profiter de l'espace. Maintenant, bon, c'est la Serbie qui a hérité de ce pavillon, que cet merveilleux espace. Bon, moi, j'avais mon idée. J'étais surpris pour qu'on me propose ce rôle-là, mais peut-être il faut dire, mais ça intéresse probablement personne, le ministère de la Culture est rentré en conflit avec le musée d'art contemporain à Belgrade, qui était plus ou moins jusqu'à maintenant chargé de ce genre de manifestation, parce que le ministère a considéré que eux, ils font une sorte de politique qui est une politique d'avant-garde à outrance, qui nettoie toutes les identités culturelles et particulières du pays, parce qu'on a probablement quelque chose d'autre à montrer que de montrer les pièces qui sont pareilles qu'au Canada ou en Nouvelle-Zélande ou à Tokyo.
Il y a un conflit, disons, sur le concept.
Parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'ils sont tous ces gens-là qui sont responsables, qui gouvernent dans l'art, ils sont un peu trop globalisés. Ils pensent comme une seule personne. Et puis,
ce ne sont malheureusement pas des artistes eux-mêmes.
Oui, bon, mais là, ils se sont rabattus. Et je vois que ce n'est pas un cas isolé. Il y a déjà la Croatie qui a nommé un artiste pour qu'il soit commissaire. Je pense que c'est le même conflit.
Ah oui, mais vous, en tant que commissaire principal, c'est vous qui apportez la décision ou pas?
Oui. Moi,
j'ai choisi
un sculpteur.
Un sculpteur?
C'est un sculpteur que, à l'époque, j'ai fait venir à Paris parce que je considérais que ça mérite un peu un espace plus large que le pays d'origine et qui a fait quelques expositions à Paris, qui est un sculpteur très, très original, personnel. Il est dessinateur aussi. Et je pense que si on surmonte les difficultés matérielles que le pays connaît, c'est une exposition qui sera bien et vue.
Oui. Et donc, vous aurez gagné la partie.
J'espère la gagner. J'espère la gagner.
Contre la globalisation de l'art. Oui.
J'espère la gagner. Je pense que pour le choix de l'artiste, on ne peut pas le contester.
Est-ce que je peux vous poser une question un peu grandiloquente, mais quand même, si vous deviez évoquer les valeurs éternelles de la peinture, quel mot choisiriez-vous ?
Sincérité.
On ne se quitte pas tout de suite, parce que nous devons quand même parler de votre installation à l'Académie des Beaux-Arts. Mmh. C'est un autre sommet de la gloire. Vous avez été distingué donc par l'Académie des Beaux-Arts, ce qui vous place en bonne compagnie d'artistes comme Georges Mathieu, Zhao Wuqi, Chu Tae-chun, pour ne citer que quelques-uns. Et vous étiez déjà commandant dans l'Ordre des Arts et des Lettres depuis, je crois, 1997. Appartenant dorénavant donc au Club des Immortels, est-ce que cela pourrait changer votre regard sur le monde ?
Absolument pas.
Non. C'est toujours le chemin...
Le chemin...
Tracé d'ascension. L'enfance et l'ascension.
Bon, ça c'est dans l'imaginaire, mais ça peut être pas tout à fait ascension, ça peut être dans une sorte de horizontalité ou dans la descente, on ne sait pas.
Oui, mais vous pouvez quand même y avoir une position, une place qui peut non seulement, outre le prestige, vous pouvez, à partir de cette position, exercer un rôle, une fonction
qui peut être utile à
vous, à votre œuvre et aux autres éventuellement.
Non, mais l'œuvre ne changera pas pour autant. C'est-à-dire, je pense qu'on peut faire au sein de cette institution, vous pensez à ça, je pense qu'on peut faire des choses, il y a des possibilités, il y a des moyens, il faut un peu dynamiser ces activités et quand même faire connaître les activités de cet Institut des Beaux-Arts, parce que je pense qu'ils ne sont pas suffisamment connus et appréciés, mais j'ai appris qu'il y a une boîte de communication qui va s'en charger à partir de maintenant pour communiquer les activités de...
Des membres de l'Institut. Principalement de l'Académie des Beaux-Arts. Il y a déjà le site.
Le site, c'est lié à des individus qui vont aller vers. C'est-à-dire, là, il faut ouvrir un peu aux médias journaux et aux médias télévision, qui sont très, très efficaces.
Donc, lira dans les hebdomadaires ou dans les quotidiens français le moment de votre élection.
Ça, je n'en sais rien. Ça dépend aussi du tri que les rédacteurs en chef des rubriques font. C'est-à-dire, la communication peut être faite et il y en a, et Dieu sait qu'il y a des communications qui se font, mais qui n'ont jamais vu le jour.
C'est pour ça que nous sommes là, figurez-vous aussi, à Cannes à l'Académie.
Oui. Et puis, l'efficacité et les capacités, d'après ce que j'ai entendu, de cette boîte de communication, qui est assez performante. On va voir.
Vladimir Velikovitch, merci de vous être prêté à cet exercice de l'interview pour Canal Académie. Vous avez quitté votre atelier pour venir sur ce plateau et nous savons que vous êtes de ces artistes qu'on soustrait difficilement de leur lieu de création, comme nous l'avons entendu. Nous n'en apprécions que plus votre présence et je suis certaine que les auditeurs aussi y seront très sensibles. Il était important pour nous de leur offrir cette rencontre avec un vrai artiste et de votre importance et membre désormais de l'Académie des Beaux-Arts. Je rappelle à nos auditeurs internautes qu'ils trouveront sur notre site toutes les références sur notre invité Vladimir Velikovitch, également bien sûr aussi les références de l'Académie des Beaux-Arts, et qu'ils peuvent télécharger cette émission, comme d'ailleurs toutes les émissions que Canal Académie vous réserve depuis des années. Vladimir Velikovitch, au revoir, et peut-être à bientôt au Carrefour des Arts sur Canal Académie.
Merci.